Bienvenue sur Radio Campus pour l'émission Fréquences et Fractions, une émission spéciale présentée par les étudiants de 13e Onde en licence 3 Information en Communication de l'Université Sorbonne Paris-Nord. 13e Onde, c'est notre web radio étudiante avec des podcasts et émissions qui reflètent notre vision du monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par Radio Campus Paris pour vous présenter une émission unique préparée avec soin par toute notre équipe. Si vous voulez découvrir nos autres productions, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur toutes les plateformes et à notre compte Instagram @13e Onde pour suivre notre actualité et nos coulisses. Générique.
Fréquences et fractions, l'écho d'une génération.
Au programme de notre émission, Fréquences et fractions qui présente le festival Effraction et les enjeux de la lecture, voici ce qui vous attend. Pour commencer, Mamadou vous présentera le festival Effraction qui se déroulera du 12 au 16 février à la BPI. Pendant le festival, nous rencontrerons Marie Mangez, autrice des Vérités parallèles parue chez Finitude en 2024. C'est justement ce livre que nos deux camarades Inès et Inès l'ont lu et vous donneront leur point de vue sur cette œuvre. Christian et Ismaël nous parleront de la rentrée littéraire d'hiver 2025. Cassie Chérine nous dévoileront les résultats de leur enquête menée sur le public de l'édition 2023 du festival. Ensuite, une table ronde passionnante présentée par Iska avec Aïna, Alice, Roland, Omeric et Marie-Jocelyne autour des moyens d'accès à des jeunes à la lecture. Pour finir, sur une note optimiste avec Nancy et Léna qui nous montreront que la lecture a encore de beaux jours devant elle. Je passe tout de suite la parole à Mamadou qui nous présentera le festival.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, Mamadou qui vous présentera le festival Effraction.
Bonjour Youssef. Alors, le festival Effraction est un événement littéraire annuel organisé par la Bibliothèque publique d'information, BPI, depuis 2019. Il met en lumière des œuvres qui explorent les frontières entre réalité et fiction, en proposant des rencontres avec des auteurs et autrices dont l'écriture est traversée par des questionnements contemporains des plus intimes aux plus politiques. Ce festival aborde une littérature documentée inspirée du réel. Pour sa 6e édition, le festival se tiendra du 12 au 16 février 2025. Initialement prévu à la Gaîté Lyrique, le festival se tiendra dans plusieurs lieux partenaires comme le Centre Pompidou et le Centre Wallonie-Bruxelles. D'autres rencontres se dérouleront au sein de la bibliothèque ainsi qu'à la Maison de la Poésie dans le 3e arrondissement et à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e arrondissement. La programmation de cette édition comprend une quarantaine d'invités participant à plusieurs formats. Table ronde, rencontres, lectures, débats, ateliers, grand entretien, création sonore, podcast et dédicaces. Nous, étudiants de l'Université Sorbonne Paris-Nord, nous vous convions à assister à de nombreux événements, comme par exemple un atelier d'écriture animé par Alice Moine qui aura lieu le 12 février à 17h à la BPI, ou encore une lecture musicale à 20h au Centre Pompidou le 12 février. Le vendredi 14 février, nous vous convions à assister à une rencontre avec Marie Mangez pour discuter de son ouvrage « Les vérités parallèles », un livre paru en 2024 aux éditions Finitude. Cet événement aura lieu à 18h au Centre Pompidou. Ou encore, le samedi 15 février, une rencontre avec Fabrice Arfi, un journaliste à Mediapart. Cette rencontre traitera de la littérature sans fiction et elle aura lieu à 15h au sein de la BPI. Effraction est un festival entièrement gratuit et ouvert à tous. Tous les événements seront retransmis en direct sur le site du festival. Pour conclure, je vous invite à suivre ce festival, car si ça vous intéresse d'écouter les points de vue des auteurs sur l'actualité et sur leurs ouvrages, ce festival est fait pour vous. Il aura lieu du 12 au 16 février à la BPI dans le 4e arrondissement de Paris.
Merci beaucoup Mamadou pour cette présentation, nous n'y manquerons pas. Maintenant, passons désormais à une rubrique littéraire présentée par mes camarades Ismaël et Christian.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rentrée littéraire de l'hiver 2025. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux œuvres sorties tout récemment qui ont attiré notre attention.
Notre première œuvre est un roman de la maison d'édition Julliard, écrit par Philippe Besson et intitulé « Vous parlez de mon fils ». Une œuvre qui, selon le site Référence Babulio, est l'un des livres à ne surtout pas manquer pour cette rentrée littéraire 2025. Ce roman aborde le thème du harcèlement scolaire ainsi que du deuil à travers le regard des parents de la victime. une thématique qui est encore d'actualité et qui est très répandue dans nos établissements scolaires. Selon les résultats de l'enquête nationale réalisée en février 2024, plus d'un élève par classe est victime de harcèlement scolaire. Cette histoire poignante sert donc de message de prévention pour les enfants, mais aussi pour les parents, et nous montre à quel point il est dur de voir son enfant souffrir sans rien pouvoir y faire, ou encore de devoir pardonner à des adolescents, encore jeunes et irresponsables, qui causent leur disparition. J'en profite donc pour vous rappeler que des dispositifs d'aide aux victimes ou même aux témoins de harcèlement scolaire sont disponibles, comme le numéro 3018 pour signaler des comportements ou vous apporter un soutien psychologique. Nous saluons donc l'initiative de Philippe Besson de parler d'un sujet si important pour notre jeunesse, et c'est pourquoi je vous ai recommandé aujourd'hui cette lecture.
Merci Christian pour cette présentation. Plongeons maintenant dans La Route, la dernière pépite de Manu Larcenet, une bande dessinée de l'éditeur Dargo. Inspirée du roman post-apocalyptique de Cormac McCarthy, Larcenet nous embarque dans un voyage sombre où un père et son fils tentent de survivre dans un monde en ruine. Visuellement, c'est un choc. Du noir et blanc brut, des traits nerveux presque griffonnés qui traduisent la tension permanente et la fragilité des personnages. Larcenet n'essaie pas d'embellir l'horreur. Au contraire, il la sublime par son trait minimaliste mais percutant. Et puis, il y a le silence. Beaucoup de cases sans dialogue, où tout passe par le regard, la posture, les ombres oppressantes. On ressent la solitude, la peur, mais aussi cet amour inébranlable entre le père et l'enfant, dernier refuge dans un monde déshumanisé. En bref, La Route est une œuvre à coup de poing, un récit puissant, déchirant, qui montre une fois de plus que Larcenet est un maître de l'émotion brute, à lire absolument, si vous avez le cœur bien accroché.
Merci beaucoup Ismaël et Christian pour cette présentation passionnante, et maintenant, sans plus attendre, Cassie et Chérine nous présenteront leur enquête et on parle de chiffres avec elles.
Alors avec Chérine, on s'est penché sur l'étude des publics de la 4e édition du festival Effraction qui a eu lieu en 2023. L'enquête elle a été réalisée par Julie Lavieille du service études et recherches et elle est docteure en sciences politiques. L'objectif de cette étude, c'était d'abord de comprendre qui sont les participants, quelles sont leurs motivations, leurs pratiques, leurs comportements et bien sûr quels étaient leurs ressentis. Bonjour Chérine.
Bonjour Cassie.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le type de visiteurs du festival ?
Eh bien, la plupart sont parisiens et actifs occupés, bien qu'on note aussi la présence de 10% de 18-24 ans et de 13% d'étudiants. Ensuite, ils sont plutôt familiers avec le Centre Pompidou, mais pas forcément avec la BPI. Ils sont aussi passionnés et ou professionnels du livre, de la culture et de l'éducation.
Est-ce que tu saurais pourquoi ces gens viennent au festival ?
Tout à fait. En fait, la plupart sont très intéressés par la présence des auteurs et viennent pour une rencontre spécifique. Ils sont 55% dans ce cas, bien qu'on note aussi que 20% sont là un peu par hasard.
Et dans l'étude, via les entretiens, on comprend que le festival est joué d'une certaine confiance du public, qui sait qu'il va pouvoir découvrir et s'entretenir avec les auteurs, enrichir sa connaissance et échanger sur la littérature.
Tout à fait. D'ailleurs, la découverte, c'est le premier des ressentis recensés par l'étude, vis-à-vis du lieu, des auteurs ou alors des œuvres. S'ensuit la réflexion presque philosophique apportée par le thème du festival, à savoir la relation entre fiction et réalité. Par ailleurs, l'une des personnes interrogées, chercheur en neurosciences, considère que ce festival apporte de la nourriture au cerveau. Une phrase qui résume plutôt bien les apports de ce festival sur ses participants.
Et pour les personnes encore un peu frileuses, le festival peut être un bon moyen pour vous ouvrir les portes de la littérature. Si vous pouvez dire de vous que vous êtes une personne curieuse et qui a soif d'apprendre, vous passerez sûrement un bon moment au Festival Effraction.
Merci beaucoup Cassie et Chérine pour cette enquête. Ne quittez pas, on revient dans un instant juste après une petite pause musicale. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police watching at me. But they can't do nothing to us.
We'll be right back. light. Me psych and Bogart strapped up the same night. Got problems in hand to make my fuckers see me. These niggas is jealous, too deep in their heart, they wanna be me. And now you got me right beside you. Hoping you listen, I catch you paying attention to my ambitions as a rider.
On vient d'écouter Ambitious as a Rider par Tupac.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
L'émission Fréquence et Fraction continue et je suis en compagnie de plusieurs invités intéressants pour passer à la table ronde qui interroge les pratiques de la lecture. Bonjour Aïna.
Bonjour.
Bonjour Roland. Bonjour Alice. Bonjour. Et enfin bonjour Iska. Bonjour. Iska, c'est toi qui animeras le débat. Je te laisse donc la parole.
Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette table ronde. On dit que les jeunes ne lisent pas, que la lecture est en baisse chez le public jeune, mais j'aimerais bien détromper ce fait. Voilà, avec vous, en vous posant la question à tous les trois, est-ce que vous lisez ?
Alors personnellement, je lis principalement dans le cadre de mes études, sinon je lis énormément sur les réseaux sociaux, mais je lis aussi la presse numérique que je trouve assez intéressante.
Pour moi, le livre a toujours été une source de frustration. J'aime lire et apprendre, mais je n'apprécie pas forcément la patience et la rigueur qu'il faut. Pour finir, un livre assez banal de 200 pages. Essayant quelquefois les livres de poche, je ne me suis jamais reconnu dans cette activité, mais plutôt dans les mangas et les magazines de sport touchant directement ma passion, touchant à mon envie d'apprentissage.
Moi, j'ai toujours aimé lire depuis petite. Je lisais la saga Harry Potter, je lisais des romans policiers et j'ai eu un temps de rupture avec la lecture. Mais depuis maintenant 2 ans, je me suis remise à la lecture et c'est mon deuxième passe-temps aujourd'hui.
D'accord. Bien, est-ce que vous saviez que le Centre national du livre, en association avec le ministère de la Culture, a publié une étude qui est intitulée « Les jeunes et la lecture en 2024 ». On y apprend que 84% des jeunes de 16 à 19 ans déclarent lire pour l'école ou le travail. Alice, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ?
Alors, la lecture a été reconnue comme une grande cause nationale par le président de la République, Emmanuel Macron. Ça questionne cette notion de lecture, qu'est-ce qu'on nous fait lire à l'école ? Personnellement, l'expérience de la lecture à l'école fait que je l'associe à la difficulté. C'est ce qui fait que je ne lis pas personnellement dans mon pour le loisir. La lecture dans le cadre scolaire est assez fermée, on retrouve beaucoup de livres classiques. Je pense que l'ouverture sur les genres littéraires à l'école, ça pourrait grandement aider. Par rapport au travail, la lecture, elle se fait également de manière obligatoire. Elle se présente comme un outil nécessaire au bon déroulé des tâches. Je connais personne qui lit un rapport de 100 pages simplement pour le plaisir.
Ouais, on en vient finalement à se demander si les seuls moyens de lire, ils sont issus de l'école ou alors du travail, comme s'il n'en existait pas d'autres. Roland, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ?
C'est très intéressant parce que selon les statistiques du Centre National du Livre en 2024, les jeunes lisent moins de romans, surtout dans un cadre de loisirs en dehors de l'école. Cette perception peut sembler égoïste car elle impose une vision de qui doit lire quoi et sur quelle plateforme. La réalité est que les jeunes lisent, mais pas de la même manière qu'il y a 20 ans. Ils passent du temps devant des pages, des phrases et des mots d'auteurs cherchant à transmettre leur passion. Face à l'écran, ils passent près de 3h11 en moyenne chez les 16-19 ans. La question des écrans est un sujet de discussion qui divise. Souvent caricaturé par les médias et par certains lecteurs de romans, d'histoires ou de développement personnel, selon leur sujet, aujourd'hui, il est essentiel de communiquer sur la pratique de la lecture et cela sur la bonne plateforme. Le véritable enjeu n'est pas de lire avec un livre traditionnel, mais de trouver la manière la plus satisfaisante pour les jeunes lecteurs de découvrir ce monde littéraire qui offre un véritable savoir.
Juste pour nuancer par rapport à ce que dit Roland, je pense que l'enjeu finalement c'est de faire en sorte que tout le monde se sente concerné par la lecture, parce qu'on voit bien qu'on nous impose différents genres littéraires mais qui ne correspondent pas finalement au goût des jeunes d'aujourd'hui. Et Pierre Bourdieu, dans son livre La Distinction, il parle de capital culturel et de ce qu'on va considérer comme la culture légitime. Et ces livres-là classiques qu'on nous fait lire à l'école, c'est ce type de lecture-là qu'on va percevoir comme la culture élitiste. Et le fait d'ouvrir peut-être dans le champ éducatif à d'autres genres littéraires, que ce soit des thrillers, que ce soit des livres de fiction auprès des jeunes, peut-être que ça leur permettrait de s'ouvrir davantage à la lecture et de prendre plaisir à ça. Et il a parlé de plateformes numériques et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien grâce aux réseaux sociaux qu'il y a énormément de choses qui se font autour du genre littéraire. Et il y a des communautés qui émergent aussi, par exemple sur TikTok, on a la communauté BookTok, où il y a des jeunes qui se font des recommandations au niveau des lectures. Et c'est très souvent des recommandations diverses et variées, que ce soit de la fiction, que ce soit de la romance, que ce soit même de nouveaux genres qui apparaissent comme la romantaisie, un mélange entre la fantaisie et la romance. Et tout ça, les jeunes, ils ont tendance à se retrouver là-dedans et c'est ce qui va leur permettre finalement de s'intéresser davantage à la lecture et de se dire aujourd'hui moi je peux lire ce que j'ai envie de lire et je sais que c'est l'impact que ça a eu sur moi, c'est le fait de me retrouver dans ces gens-là et de me dire que la lecture c'est pas finalement seulement Émile Zola ou autre, c'est aussi ce qu'on peut voir avec des romans à l'eau de rose qui correspondent aussi aux jeunes. Donc prendre en considération ça et peut-être se dire est-ce que finalement les réseaux sociaux deviennent un nouveau moyen pour permettre la lecture chez les jeunes, peut-être bien que oui.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous pour avoir exprimé vos avis et nous avoir donné des chiffres, des statistiques. On se retrouve tous après une petite pause musicale.
J'ai abrégé les études pour sortir des disques. J'ai vite appris le 8ème art dans les rangs du béton armé. Truc de ouf, pas toujours aisé rude, mal frappe par habitude. Docteur, je fais une fausse couche parce que la rue m'a baisé. Si on assure, à l'aise, 92, trop à l'aise. Cause, hâte avant que les Schmitt viennent à la rescousse. Brave, je défrais la chronique. Tant que je serai dans la street, le move sera grave. Cocu, Brigitte sera dans la cave. Eh, Bellec, c'est du haut de gamme, pas d'amalgame. Gamin, on se ramène sur Neptune, mon amertume. Mon crewman combat la race humaine. Si tu t'en tires avec des prothèses, c'est que Dieu te protège. Et si un jour on m'entend plus sur le disque, ce sera à cause de ceux qui sucent, trahissent juste pour le pif. Tu parles de femmes, de voitures, de bises et tout. Mais tes royalties, 5 ou 6 royalties, c'est tout.
Tu veux pas contrôler ma destinée. C'est pas la peine. C'est pas la peine.
D'exercer exercer, me faire passer les pinces. Rouge sans son mes versets, des nègres ont des chattes et des ins. Comment ça, je perds Joe Star dans les journaux. Coupable, voilà les titres, 22 voilà les stars, 9 de voilà l'équipe, c'est explique. La scène qui veut ma peau perdra la sienne. Oh, froissons les repas dans nos assiettes. Allo CP2O, encore un chien de chienne. Les hyènes ressentent la tumeur et moi je suis d'humeur palestinienne. Des gouttes de sang et pas de francs, malheureusement, yo. J'ai pris des cartons, j'ai trop tiré la vie par le maillot. Ramasse sa vie et conseille à la paix. Qui veut la paix, prépare la guerre, je te le rappelle. Miro auront mon soutien jusqu'à ce que je rende l'âme. D'où je viens, pour un gramme, ça finit en drame. Ro, écoute bien, la vie c'est qu'une seule mi-temps. Trop de plomb dans l'autopsie, les MC meurent en imitant le 9-2 et.
Tu veux pas contrôler ma destinée. J'arrive pas mais pourtant j'essaie. Ce soir, face à cette feuille blanche Iveka, je me dis que la vie est trash. Toutes ces fois où je prends sur moi, les coups sont durs mais je reste froid. Et je me lève avec plus de rage au ventre et sur mes lèvres. Et je
On vient d'écouter Destinée de Booba.
À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
Place maintenant à nos deux camarades Inès et Inès qui vont nous présenter leur point de vue sur le nouveau livre de Marie Mangès, on en parlait tout à l'heure, Les Vérités Parallèles.
Bonjour à tous, bonjour Inès.
Bonjour.
Ce mois-ci nous avons lu le livre Les Vérités Parallèles de Marie Mangès. Avant d'en parler, peux-tu nous faire un petit résumé ?
Bien sûr, donc c'est l'histoire d'Arnaud Daguerre, dit le faussaire, un mot que l'auteur lui destine souvent. Un célèbre grand reporter au miroir, un journal fictif. Ses reportages sont admirés et célébrés par tous. Il a par ailleurs reçu le prix Albert Londres. Toutefois, bien qu'il soit journaliste, Arnaud est un grand timide aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Sa timidité l'empêche d'approcher, d'interviewer, et de contacter les personnes nécessaires pour exercer son métier. Il décide alors de faire appel à son imagination. On va maintenant commenter le livre. Inès, peux-tu nous donner ton avis sur cette lecture ?
Pour ma part, en toute honnêteté, ce roman a été une lecture légère, fluide, et je le conseille surtout pour les personnes qui veulent découvrir le métier de journaliste et de reporter. Si je peux me permettre, petit aparté, ce roman s'inspire d'un journaliste allemand, Klaas Relotilius, du journal Der Spiegel, pris la main dans le fake en 2018. À travers son livre, Marie Mangès met en avant la circulation circulaire de l'information, qui est, si on la définit grossièrement, un phénomène où une même information est relayée et amplifiée en boucle par différents médias et acteurs en raison de l'abonnement des journaux aux mêmes agences de presse. Cette lecture est très intéressante dans un contexte de désinformation, surtout de nos jours avec l'émergence des réseaux sociaux. Arnaud est une exception, évidemment. Tous les journalistes ne sont pas des imposteurs, il est important de le souligner. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le personnage, s'il te plaît, Inès ?
Bien sûr, donc il faut savoir qu'Arnaud Daguerre brode au lieu de raconter les faits. Par exemple, en voyage à Athènes, pour y interviewer un banquier, il se relève timide et est incapable de le rencontrer. Je cite « Le banquier en péril, c'est le mari de la réceptionniste de l'hôtel, ex-employé à Alpha Bank. Désormais sans travail et au bord de la dépression, Arnaud lui a parlé quelques minutes au téléphone en milieu de semaine. Il ne l'a jamais vu et encore moins mis les pieds chez lui. »
Si vous voulez découvrir le dénouement de cette histoire, rendez-vous chez votre libraire.
Et maintenant, tout de suite, on passe à la dernière rubrique de notre émission. Nancy et Léna qui vont nous présenter leur chronique culture.
Bonjour Youssef et salut Léna.
Salut Nancy.
Aujourd'hui, on parle culture, mais pas de manière sérieuse et ennuyeuse. Hein. On va plonger dans le rapport des étudiants d'aujourd'hui à la culture, et en particulier à celle qu'on pourrait qualifier d'entre guillemets noble. Tu sais, les musées, les livres, les expositions, tout ça quoi. Au travers de notre chronique, le vécu de nos étudiants, à chacun sa culture. Alors, prête à parler de ce sujet Léna ?
Ah, je vois, ça va être fun. Et tu me connais, prête, c'est mon deuxième prénom. Et en effet, je sais pas toi, mais je trouve que nos générations n'ont vraiment pas le même rapport à la culture et surtout la même manière ou envie de la pratiquer. Par exemple, moi, on va dire que je suis encore un peu de la vieille école, je pratique la culture comme j'aime le cinéma, la musique, etc. Bon bref, je suis un peu comme tout le monde quoi. Mais je sais que pour la lecture, je dois me forcer vraiment beaucoup et une fois que c'est fait, je suis super fière, je me dis « waouh, je me coucherai moins bête ». Mais c'est pas mon premier ressenti. Et je vois bien que les étudiants d'aujourd'hui, c'est un peu, et les jeunes d'aujourd'hui aussi, c'est un peu comme moi, voire plus que moi.
Mais je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, t'as vu les derniers chiffres du Centre National du Livre. En 2022, seulement 80% des jeunes de 15-25 ans se disent lecteurs, contre 86% pour l'ensemble de la population française. Et en 2021, 68% des étudiants lisent leurs livres au format numérique. Fini le papier pour certains et place à la lecture en ligne. On connaît tous un peu secrètement Wattpad.
C'est vraiment fou, je trouve. Et c'est vrai que ça se ressent partout. Et j'ai même vu, d'après une autre étude du CNL, que les jeunes consacrent en moyenne presque 3h14 par semaine à la lecture. Mais c'est mignon à côté du temps qu'ils passent sur leurs écrans. 3h50 par jour. Et encore, 47% d'entre eux lisent en faisant autre chose en même temps, genre traîner sur les réseaux sociaux. Et ça, j'avoue, je plaide coupable, je fais la même chose.
Je l'avoue, je suis coupable aussi. Mais en tout cas, ce phénomène montre à quel point la consommation de culture est en train de changer. C'est là que des événements comme le Festival Effraction prennent tout leur sens.
Ah oui, le Festival Effraction. C'est vrai qu'il suffit de regarder, par exemple, la dernière enquête des publics de l'édition précédente qui a eu près de 17 millions de vues en ligne. Et franchement, pour un festival sur la culture et le livre, c'est quand même pas mal. C'est presque même des stars, on peut le dire. Et du coup, ils font un festival. J'ai appris que c'était un festival aussi en salle. Mais c'est pas seulement un festival en salle. Maintenant, c'est devenu un événement national, voire même international.
Un festival qui se déroule cette année, du 12 au 16 février 2025, où ça sera l'occasion de découvrir des livres qui mélangent fiction et réalité, avec des performances, des ateliers, des podcasts, bref, un programme interactif et dynamique, parfait pour nous les jeunes.
Et c'est ça qui est génial, parce que la culture ne se limite plus aux livres, aux musées traditionnels, comme on pourrait le croire. Pompidou, par exemple, propose des expositions immersives, interactives et super stimulantes pour notre génération. Tu te souviens de l'expo qu'on a fait sur le surréalisme ? J'ai adoré l'entrée du labyrinthe, c'était vraiment comme un voyage et j'étais vraiment surprise de tout ce qu'ils avaient mis en place en fait.
Le secret en réalité, je pense, pour les musées, festivals entre autres, est d'avant tout proposer des activités stimulantes, se mixer en partie peut-être au numérique, sans pour autant trop en proposer car il faut aussi se méfier des effets néfastes connus de la technologie. Mais les jeunes générations actuelles vont à l'avenir et continueront d'être stimulées par cet ensemble d'activités avec leurs enfants.
Exactement, et ainsi nous pourrions peut-être passer la barre des 44% de jeunes de 18 à 25 ans ayant visité un seul musée dans l'année 2022, et ça c'est selon l'Observatoire des publics des musées. Un chiffre qui montera sûrement, c'est relativement facile à dépasser tu vas me dire, et on l'espère vraiment.
Et c'est exactement ça qui fait toute la richesse de notre époque. Aujourd'hui, on peut découvrir la culture partout, au musée, sur nos écrans, sur les réseaux sociaux. Peu importe le format, ce qui compte, c'est de rester curieux et ouvert.
Et oui, chers auditeurs, n'oubliez pas, peu importe le format, la culture vous attend partout.
Après ce tour d'horizon fait par nos camarades, il est important de constater que l'approche à la culture est d'autant plus importante pour nous, étudiants en licence information et communication. Lorsque je suis arrivé en L1, beaucoup de mes camarades étaient attirés par le domaine journalistique. Et pour continuer dans ce domaine, il est impératif de développer un capital culturel. Ce festival est une opportunité de développer sa culture ou de découvrir une passion pour la lecture. Comme Lena et Nancy l'ont démontré, la lecture a de beaux jours devant elle et la culture aussi. N'oubliez pas, chers auditeurs, de vous abonner à nos chaînes de podcast et à nos réseaux sociaux @13e Onde. C'était Fréquence et Fraction, merci de votre écoute.